Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans le chapitre 18 de Saint Matthieu, sur le polycopier qui regroupe les chapitres 16 à 20 de Saint Matthieu. Nous en sommes à la page 20, au milieu de la page. Donc nous sommes en train d'expliquer la parabole du berger qui a 100 brebis et voilà qu'une s'égare et ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous le dis notre Seigneur, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont point égarés. De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'un seul de ses petits périsse. On voit bien une fois de plus la volonté antécédente de Dieu de sauver tous les hommes. Il veut qu'il y ait un seul troupeau et un seul pasteur. Mais malheureusement, comme hélas, la plupart des gens vont devenir la proie du démon, la plupart des gens vont refuser les grâces du bon Dieu, eh bien, un certain nombre de gens, hélas, vont manquer la porte, vont se trouver en dehors de la bergerie, et donc vont périr. Donc, de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ veut le salut de tous les hommes, de volonté conséquente, seuls ceux qui sont unis à lui par la vertu de charité pourront sauver leurs âmes. Donc voilà ce qu'expliquent les pères. Si la création des anges est une œuvre admirable de la puissance de Dieu, la rédemption des hommes est bien plus admirable encore. C'est saint Alphonse de Ligouris, je crois, qui dit que c'est une plus grande chose de pardonner aux pécheurs repentants et de sauver une âme que de créer le ciel et la terre. Donc l'évangéliste dit que ces 99 brebis sont laissées sur les montagnes, c'est-à-dire sur les lieux élevés, parce que les brebis qui ne sont point égarées se tenaient sur les hauteurs spirituelles de la foi. Donc la montagne symbolise la montagne du Christ. Le Christ est cette montagne. Et donc les brebis qui sont avec le Christ sont dans la montagne. C'est pour ça que l'évangile dit: si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 90 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Donc les 99 brebis qui sont sur les montagnes sont les fidèles réguliers qui restent en état de grâce habituellement. Et donc le maître peut les abandonner pendant un certain temps ou les laisser seuls pendant un certain temps. Elles ne font pas de bêtises parce qu'elles sont groupées. C'est l'Église. Et donc il va chercher les brebis qui, elles, ont quitté l'Église ou qui n'ont jamais appartenu à l'Église pour les rapatrier justement dans cette Église, l'unique bercail, l'unique moyen de salut. Donc, c'est que ceux qui ont une très grande confiance d'avoir point commis de faute grave sont presque toujours pleins de tiédeur pour la part pratique des vertus élevées. Donc, l'homme, par sa nature, a tendance à descendre. La gravité entraîne l'homme vers le bas, vers la terre, vers la boue du péché. Et au contraire, la grâce du bon Dieu va élever l'homme qui va quitter la région du péché, de la boue du monde moderne, pour s'élever vers les hauteurs spirituelles et trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, il arrive souvent que ceux qui ont la conscience d'avoir commis quelques grandes fautes, sous l'impression de la douleur qu'ils en ressentent, s'embrasent du feu divin. Comme ils ont toujours leurs égarements devant les yeux, ils réparent les pertes précédentes par les gains qu'ils réalisent ensuite. Donc, lorsque une personne se convertit, c'est le symbole de la brebis égarée qui est trouvée par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ avec la brebis qui s'est égarée? Il la ramène au bercail, il la ramène dans l'unique berceau qui est l'église catholique. Et les catholiques, évidemment, se réjouissent de voir une nouvelle âme qui arrive vers eux. Mais quel dommage de voir parfois dans certaines de nos chapelles, certaines chapelles de la tradition, des gens qui veulent exclusivement rester entre eux, qui ne veulent surtout pas accepter d'autres personnes, des convertis de l'extérieur. C'est une réflexion qui m'a été faite souvent par des convertis qui se sentent mal à l'aise dans les chapelles parce que justement ils nous disent, mais monsieur l'abbé, on sent très bien que nous on n'a pas toujours été catholiques, donc on a peut-être plus de convictions que les autres parce qu'on sait d'où nous venons, et en même temps les catholiques ont du mal à nous accepter parce que nous sommes un peu différents des autres. C'est évident que quand quelqu'un a vécu dans le monde moderne, loin du bon Dieu, pendant des années et des années, bon, il y a parfois des choses qui ne vont pas et qui doivent être améliorées, qui doivent être nettoyées progressivement. Et là, il y a une phrase très belle des pères que j'aime beaucoup, je cite souvent en sermon. C'est ainsi que dans une bataille, un général préfère le soldat qui, après s'être enfui, revient presser vigoureusement l'ennemi à celui qui n'a jamais tourné le dos, mais qui aussi n'a jamais fait d'action d'éclat. Donc le bon Dieu aime sans doute plus une âme qui a passé peut-être de longues années loin de lui, dans l'ignorance. Coupable ou non, Dieu seul sait, peut répondre à ce point-là, mais parfois ces âmes ont passé des années et des années loin de Dieu, dans le péché, jusqu'à 40, 45 ans, et puis un beau jour, avec la grâce du bon Dieu, ils reviennent vers le bon Dieu, ils se convertissent. Eh bien, Dieu a certainement plus d'amour pour ces gens qui ont passé des années et des années loin de Dieu et qui revient vers le bon Dieu plutôt que des âmes qui ont toujours été dans la foi catholique mais qui ont, je dirais, pas beaucoup de mérite parce qu'elles ont tout reçu depuis que ces gens sont tout petits. Et on peut changer même cette phrase des pères en disant que le bon Dieu préfère un soldat qui tombe souvent et qui se relève à chaque fois, plutôt qu'un soldat qui tombe jamais. Qui ne sait pas ce que c'est que de se relever parce qu'il n'est jamais tombé. Au contraire, celui qui tombe souvent dans la journée, qui à chaque fois se relève, à chaque fois reprend le mort aux dents pour continuer le combat contre le démon, eh bien il a beaucoup plus de mérite finalement que quelqu'un qui a toujours été dans la foi catholique. C'est pour ça, faites attention de ne pas mépriser ceux qui viennent de loin. C'est une très grande joie pour moi en tant que prêtre de voir dans les retraites souvent des gens qui viennent et qui n'ont pas pratiqué parfois pendant 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans parfois, et puis parfois ils sont baptisés, parfois ils ne le sont pas, et puis ils font la première confession, la première communion pendant la retraite, quelle grâce! Donc ne méprisons pas ces petits. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. Donc Dieu a certainement plus d'amour, encore une fois, pour le soldat qui après s'être enfui, donc qui a abandonné le combat, revient presser vigoureusement l'ennemi à celui qui n'a jamais tourné le dos, mais qui aussi n'a jamais fait d'action d'éclat. De la même façon, comme je viens de vous le dire, le bon Dieu a certainement plus d'amour pour un soldat qui est tombé souvent par faiblesse, mais qui à chaque fois s'est relevé vigoureusement pour reprendre le combat, mais il a plus d'amour pour lui certainement que pour quelqu'un qui n'est jamais tombé. Pourquoi ? Parce que la personne qui tombe souvent a besoin de plus de grâce que la personne qui ne tombe jamais. Suarez enseigne à propos des anges. Donc, au verset 10 de ce chapitre 18 de Saint Matthieu, il est dit « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu d'abord pour ceux qui pêchent jamais, il est venu pour les grands pêcheurs. Je mets en scène que les anges gardiens sont ordinairement du neuvième cœur des anges, le plus bas dans la hiérarchie angélique, et ce sont eux qu'on appelle communément les anges. Mais pour certains hommes qui surpassent les autres par leur dignité, tels que les apôtres, les prophètes, les patriarches, les évêques, les rois, des gardiens plus élevés leur sont assignés du huitième ordre, à savoir les archanges. Le gardien de la Sainte Vierge Marie était Gabriel, Saint Gabriel, et beaucoup pensent qu'il était un séraphin. Tous les hommes ont leur ange gardien, sauf le Christ, qui n'en avait pas besoin, car sa divinité était un gardien suffisant pour son humanité. La piété populaire dit, ce n'est pas deux fois, mais ça a toujours été enseigné par l'Église, depuis des siècles et des siècles, que le jour de son ordination sacerdotale, le jeune prêtre reçoit un deuxième ange gardien. Il y a déjà celui qu'il a reçu le jour où il est apparu dans le ventre, dans le sein de sa mère, mais un deuxième ange gardien qui vient prêter main forte au premier au moment de l'ordination sacerdotale. Et il y a même certaines personnes qui pensent, certains théologiens ont l'opinion qui est respectable, que les évêques en ont même un troisième qui reçoit le jour de leur épiscopat. Alors, voyons en bas de la page 20, il y a toute une série de points qui sont très beaux, qui sont des points expliqués par les pères sur le rôle de l'ange gardien. L'ange gardien par rapport à son protégé. C'est un devoir très important parce que vous savez que l'Église enseigne que l'ange gardien, après la mort temporelle, ici-bas, de son protégé, il remonte au ciel. Il n'est pas réutilisé par le bon Dieu pour une autre âme, non. Il garde le souvenir donc de cette protection qu'il a essayé d'accorder à cette âme pendant des années et des années. Et certainement, quand on arrivera au ciel, on pourra voir notre ange gardien et remercier en personne notre ange gardien de tous les bons services spirituels qu'il nous a rendus. Donc voilà les devoirs de l'ange gardien par rapport à son protégé d'après les pères. D'abord, de les préserver du danger, tant du corps que de l'âme. L'ange gardien protège pas simplement les âmes, mais aussi les corps. On le voit bien parfois avec les enfants, on voit bien dans certaines situations tendues, difficiles, comment les anges gardiens ont protégé pas simplement les âmes, mais aussi les corps. Deuxième rôle de l'ange gardien, d'illuminer, d'instruire, de pousser aux bonnes œuvres, c'est-à-dire de maintenir son protégé dans le bon chemin qui mène vers le bon Dieu. Troisièmement, de restreindre le pouvoir du démon pour qu'il ne puisse pas lui suggérer de mauvaises pensées ou fournir des occasions de péché. Donc c'est un protecteur, un peu comme une armure. Et le démon, évidemment, va hésiter deux fois avant de tenter une âme à faire le mal s'il sait que l'ange gardien de cette âme est constamment de garde devant la porte de la maison. Donc il sait qu'il va prendre des coups, alors le mauvais ange n'attaque pas. Parce que l'ange gardien est comme un chien de berger, un gardien qui est à l'entrée de la maison, qui va aboyer immédiatement dès qu'il va voir les mauvais anges qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu dans l'âme de cette personne. Quatrièmement, l'ange gardien a pour but d'offrir à Dieu des prières pour celui qui le garde. Donc il est à la fois au ciel et aussi près de cette âme qu'il protège, et donc il offre à Dieu des prières qui sont certainement plus efficaces que les nôtres, parce que sa nature est plus élevée, il a une nature angélique, il offre des prières au bon Dieu, certainement pour nous protéger, obtenir des grâces pour nous, mais en même temps pour réparer nos péchés. Certainement que l'ange gardien, dès qu'il voit, parce qu'il voit ce qu'on fait, dès qu'il commet, il voit que malheureusement nous sommes en train de perdre la grâce du bon Dieu par le péché, il doit offrir des prières spéciales, des sacrifices spéciaux au bon Dieu, un sacrifice d'agréable odeur, un encens d'agréable odeur pour justement obtenir des grâces de conversion pour son protégé. Il est là aussi pour le corriger quand il pêche, et pour être auprès de lui à l'heure de la mort, le réconforter, l'assister au moment de son dernier combat. Donc notre ange gardien, c'est notre bonne conscience, et ça on l'entend, les enfants l'entendent souvent, quand ils veulent faire une bêtise et qu'ils savent très bien qu'ils font une bêtise et qu'ils entendent littéralement une petite voix à l'intérieur de leur organisme intellectuel qui leur dit de ne pas faire ça. Nous-mêmes, on a aussi cet ange gardien qui nous protège. Il faut avoir ce grand amour pour les anges. On a quelque chose qu'on a beaucoup de mal à imaginer parce qu'on ne les voit pas. Ce sont des purs esprits. On n'imagine pas le nombre de milliards d'anges que Dieu a créés. Pensez le dernier cœur des anges, le moins important, donc en nombre et en valeur, c'est le cœur qu'on appelle des anges, puis des archanges. Et ces anges, il y en a au moins un pour chaque personne qui est passée sur la terre. Alors, vous pouvez imaginer le nombre d'anges qu'il doit y avoir en tout, parce qu'il y a tous les autres cœurs, les sept autres cœurs, pour monter jusqu'au plus haut, les séraphins, les chérubins. Page 21, dernier rôle de l'ange gardien. Après la mort, pour accompagner son âme au ciel ou au purgatoire et l'y consoler de temps en temps jusqu'à la fin de son épreuve, puis l'amener au ciel. Donc c'est l'enseignement de l'Église catholique qui précise que l'ange gardien a un pouvoir de descendre au purgatoire, pas en enfer. En enfer, malheureusement, lorsque quelqu'un tombe en enfer, ben son ange gardien le quitte définitivement, on ne peut plus rien faire pour lui. Et par contre, au purgatoire, l'ange gardien vient réconforter, encourager la personne qui souffre le feu purificateur du purgatoire jusqu'à la fin de son épreuve pour l'amener au ciel. Alors, Saint Bernard explique, c'est page 21, que les anges, même quand ils doivent quitter le paradis, contemplent toujours la face de Dieu. Ils sont toujours à la fois au paradis et à la fois sur terre en train de s'occuper de nous. Car ils sont bien heureux, quel que soit le lieu où ils se tiennent, ainsi où qu'ils soient, ils sont au ciel, là où est la vision et la gloire de Dieu, là est le paradis. Donc, les anges sont constamment en présence de Dieu. Chacun à son degré, c'est évident que la gloire d'un séraphin ou d'un chérubin est largement supérieure à celle d'un simple ange ou d'un simple archange. Alors le Fils de Dieu, fait un peu la même chose avec chacun d'entre nous. Donc le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va nous préserver du danger, tant du corps que de l'âme, va nous illuminer, nous instruire, nous pousser aux bonnes œuvres, restreindre le pouvoir des démons pour qu'ils ne puissent pas nous suggérer de mauvaises pensées, nous fournir des occasions de péché. Notre Seigneur va offrir à Dieu le Père les prières pour celui qu'il garde, va le corriger quand il pêche, pour être auprès de lui à l'heure de la mort, le réconforter, l'assister au moment de ce dernier combat et après la mort pour l'accompagner au ciel, après le passage au purgatoire. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef des anges, va en quelque sorte faire avec nous le même travail que font avec nous les anges gardiens, et d'une façon beaucoup plus élevée, bien sûr. Donc le Fils de Dieu tient un tel soin des petits-enfants que pour leur protection, il s'abaisse au plus profond degré de l'humilité, descendant du ciel pour assumer leur chair. Leur salut apporte une joie singulière au Christ et à son Père, comme on le voit dans la parabole de la brebis perdue. Vous voyez, donc c'est dire toute l'aide dans la... C'est au verset 12 du chapitre 18 de Saint Matthieu. Donc, si un homme a 100 brebis, Kendall s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Vous voyez, on pourrait dire, mais pourquoi abandonne-t-il même provisoirement les 99 brebis? Parce qu'il sait qu'elles sont dans l'église à l'abri des attaques du loup. Mais qu'est-ce que fait le bon Dieu? Donc, il abandonne au moins provisoirement les bons qui restent en état de grâce et va s'occuper, va rechercher les brebis perdues, c'est-à-dire celles, les hommes qui vivent en état de péché mortel jusqu'au cou. Notre Seigneur Jésus-Christ a un amour tout particulier pour les pécheurs. Pas simplement un amour pour les malades, pour les apôtres et les grands saints. C'est un grand, grand amour pour les pécheurs. Parce que c'est pour les pécheurs d'abord qu'il va mourir sur la croix pour nous. Donc, prenez donc le plus grand soin de ces petits, de peur que par vos offenses, vous ne les détruisiez, eux que j'ai rachetés, avec tant de travail et de sang. Il y a une faute d'orthographe qu'il faut que je corrige là. Eux que j'ai rachetés, il y a un S, je m'excuse, des fautes d'orthographe, il y en a encore quelques-unes qui traînent sur le polycopier. De temps en temps, je fais un changement de polycopier pour remettre la polycopier avec des fautes d'orthographe corrigées. Mais je ne les vois pas toutes, parfois il y en a qui passent, je m'excuse. Par le scandale envers les petits, vous faites des anges, de mon père et de moi-même vos ennemis. Car le Christ aime les petits comme ses propres enfants et ses plus intimes amis. Ils sont sa propriété spéciale, et si vous les enlevez en les poussant au péché, je vous en donnerai un compte très strict. Là, encore une fois, il fait une allusion, comme on l'a vu déjà auparavant, au péché de scandale. Combien d'âmes se sont damnées à cause de moi? Combien d'âmes ont péché, commis des péchés mortels à cause du mauvais exemple que j'ai donné, malheureusement, à ces âmes? Il faut y penser, mes bien chers frères. Et si je me rends compte que j'ai donné des mauvais exemples à certaines âmes, eh bien, il faut que je rattrape, parce que ce sont les péchés contre la justice, et après tout péché contre la justice, une réparation est nécessaire. Donc ces petits sont pas simplement les enfants, ces petits sont aussi tous ceux qui vivent loin de Dieu et qui cherchent à revenir vers Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave, certainement, que d'empêcher des bonnes âmes qui cherchent à revenir vers Dieu, de revenir effectivement vers Dieu, parce que ben on est sur leur chemin pour les empêcher de monter. J'ai connu malheureusement je vous l'ai peut-être déjà dit des prêtres. J'ai beaucoup souffert de ça. J'ai connu un prêtre en particulier qui se lamentait de voir que des non-catholiques venaient en retraite. Il aurait voulu avoir que des catholiques de tradition. Mais parce qu'il était complètement perdu à l'idée de devoir réapprendre tout à quelqu'un qui ne connaissait rien. J'ai eu des retraitants qui sont venus faire la retraite, et qui ne savaient même pas faire un signe de croix, qui ne savaient aucune prière, rien du tout, mais qui venaient parce qu'ils cherchaient Dieu. Et bien, donc, gracias, il faut aimer particulièrement ces enfants-là, de la même façon qu'une mère de famille, qu'un père de famille, qui a plusieurs enfants, il y en a un qui est plus difficile que les autres. Eh bien, le père de famille, la mère de famille doivent aimer particulièrement l'enfant qui est le plus difficile. Mais c'est la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, a plus d'amour pour un soldat qui s'est enfui, peut-être pendant très longtemps, loin de l'Église catholique, et qui revient presser vigoureusement l'ennemi en cherchant Dieu, que pour quelqu'un qui n'a jamais tourné le dos, mais qui n'a aussi jamais fait d'action d'éclat. Donc le Christ aime les petits comme ses propres enfants. Donc soyons des amis du bon Dieu, des intimes amis de bon Dieu. Le Christ est également le sauveur des anges, mais qu'il ne soit pas le rédempteur comme il l'est des hommes. Car il mérita pour les anges grâce et gloire, c'est-à-dire élection, vocation et toutes sortes d'aides pour les stimuler, les assister d'une manière suffisante et efficace et finalement leur donner tous les mérites et augmentations de grâce et de gloire. Il est donc la cause méritoire de la grâce et de la gloire des anges. De leur côté, les anges ont une foi vivante dans le Christ incarné, et par cela, ils sont justifiés. Donc le bon Dieu n'a pas racheté les hommes, les anges, de la même façon qu'il a racheté les hommes, puisqu'il a offert le sacrifice de la croix, d'abord pour les hommes, strictement parlant. Les anges avaient déjà été rachetés par notre Seigneur auparavant, par le choix qu'ils avaient fait, avec la grâce du bon Dieu, de rester dans le bon camp, avec Saint Michel, et pas se laisser entraîner dans la troupe du tiers des anges qui ont suivi Lucifer. Le Christ laisse ceux qui, par sa grâce, sont déjà grands dans la foi, donc c'est ceux qu'il laisse dans la montagne, sur les montagnes, ou qui s'estiment tels, et dont le nombre est très élevé pour s'occuper d'eux-mêmes et des autres. Mais si l'un d'entre eux, qui est petit dans la foi et la prudence, s'éloigne du chemin du salut, il recherche pour lui, par ses anges, par ses docteurs et prédicateurs, un moyen de la ramener dans le chemin. Donc Dieu va faire vraiment, le berger, si vous voulez, va faire des kilomètres et des kilomètres pour retrouver la brebis égarée et la ramener au bercail. Versets 15 à 17 du chapitre 18 de Saint Matthieu, page 21. « Si votre frère a péché contre vous, allez et reprenez-le entre vous et lui seul, et s'il vous écoute, vous aurez gagné un frère. Mais s'il ne vous écoute pas, prenez encore avec vous une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée par l'autorité de deux ou trois témoins. Et s'il ne les écoute pas, dites-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen ou un publicain. » Qu'est-ce que veut dire ce texte ici? L'Église, cette coupure avec le païen, le publicain, les publicains avec lesquels il faut tout couper, mais représente la peine d'excommunication. C'est ça qui est derrière. C'est une peine d'excommunication qui coupe une âme de la communion avec les fidèles. C'est pour ça que les gens excommuniés ne peuvent même plus assister à la messe. Les excommuniés vitandi, à éviter, ne peuvent même plus assister à la Sainte Messe. Pourquoi ? Parce que leurs actions, leur façon de vivre, les a coupés complètement de la vertu de charité. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit. Alors ici, il y a des notes intéressantes des pères. Voilà ce que disent les pères en bas de la page 21. Notre Seigneur ne commande pas de pardonner indistinctement à tout homme qui pèche, mais à celui qui est disposé à écouter, c'est-à-dire à obéir, à faire pénitence, afin que le pardon ne soit pas trop difficile ou que l'indulgence soit excessive. Donc attention à ça. Dans le monde moderne, dans l'église de Vatican II, entre autres, ils enseignent que le bon Dieu pardonne à tous les pécheurs, point. Mais c'est faux. Le bon Dieu pardonne à tous les pécheurs repentants. Il pardonne à tous les pécheurs qui ont un désir de revenir vers lui. Et donc une des conditions pour recevoir le pardon du bon Dieu, c'est d'avoir la contrition de ses péchés. Et pour avoir la contrition de ses péchés, il faut éviter les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Donc si je garde dans ma vie tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché mortel, je n'aime pas le bon Dieu malgré mes dires, malgré ce que je prétends être, ce que je prétends faire. Donc, le bon Dieu pardonne aux pécheurs repentants, pécheurs qui regrettent ses péchés, pécheurs qui repoussent loin de lui les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Donc, la miséricorde, cette parabole de la brebis égarée, c'est une parabole qui explique la miséricorde infinie du bon Dieu pour les pécheurs. Donc, c'est la miséricorde n'empêche pas la justice, la contrition est nécessaire. Le pardon, c'est la miséricorde, la contrition, c'est la justice. Pas de justice. Pas de contrition, je veux dire, pas de miséricorde. Attention, la contrition est donc nécessaire au salut. Il faut au moins, minimum, avoir une contrition imparfaite. Je vous rappelle que la contrition imparfaite, c'est regretter ses péchés par peur de l'enfer. Si c'est lié joint à l'absolution sacerdotale, eh bien c'est suffisant pour se confesser correctement. L'idéal, évidemment, il faut pousser nos enfants à ça, c'est d'obtenir avec la grâce du bon Dieu une contrition parfaite, c'est-à-dire un regret de nos péchés, par amour de Dieu, parce que mon Dieu est mort pour moi sur la croix. Une contrition servile ne vaut rien. Une contrition servile, c'est la contrition de l'esclave qui ne pêche pas parce qu'il craint le bâton du maître, mais qui garde en lui-même la volonté de pécher. C'est évident que si je garde la volonté de pécher, par exemple parce que je garde des occasions prochaines volontaires de péché mortel, ma contrition est une hypocrisie devant Dieu. Et Dieu ne va pas pardonner quelqu'un qui refuse de changer de vie, qui refuse de quitter le péché. C'est absolument évident. Lors donc qu'un de nos frères pêche contre nous, montrons-nous empressés, non pas de défendre nos droits, car rien n'est plus glorieux que d'oublier une offense, mais d'oublier l'injure qui nous est faite, sans oublier la blessure qu'elle a faite à notre frère. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, parce que le catholique est capable, avec la grâce du bon Dieu, de pardonner. Rappelez-vous ce qu'on dit tous les jours, hein, pardonnez-nous nos offenses, quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le catholique est capable de pardonner à celui qui l'a offensé. Donc toujours pareil, à condition bien sûr que la personne qui nous a offensés regrette ce qu'elle a fait et arrête de nous offenser. Il est évident que le bon Dieu ne demande pas à un catholique de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui continuent de nous offenser. Il faut du bon sens. Exemple. Que je donne toujours quand je parle aux enfants, c'est imaginez un enfant, j'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois, mais je le redonne pour être sûr que les gens comprennent. Imaginez un enfant qui vole tous les jours une pièce d'un euro dans le portefeuille de sa mère. Bon, sa maman s'en aperçoit, lui passe un savon, il promet d'arrêter, puis il continue de le faire. Et tous les jours, il continue de voler un euro dans le portefeuille de sa maman. Est-ce que la maman doit pardonner? Non, elle ne doit pas pardonner, parce que si elle pardonnait un enfant tout en sachant que l'enfant continue de voler un euro tous les matins dans son portefeuille, ce serait plus de la miséricorde, ce serait de l'injustice. Pour que la miséricorde puisse s'exercer, il faut que l'enfant arrête de voler. Si l'enfant arrête de voler, vient demander pardon de son offense envers sa mère, même restitue l'argent, moi c'est l'argent qui n'a pas été dépensé par lui pour acheter des chewing-gums ou des jouets, et bien à ce moment-là, la maman peut pardonner. Mais la maman ne doit pas pardonner tant que l'enfant continue de pécher, c'est absolument évident. On entend parfois des bêtises de ce genre dans certaines familles catholiques. Ah, mais il faut pardonner les offenses, donc j'ai pardonné à mon fils qui vit en concubinage. Ah, mais attendez, votre fils, il vit toujours en concubinage? Ah ben oui, il faut pardonner, a dit notre Seigneur, donc je lui pardonne.
Et je le reçois chez moi avec sa maîtresse, comme ils étaient mariés légitimement, parce qu'il faut pardonner. Mais le bon Dieu ne vous demande pas de pardonner en respectant le péché. Le bon Dieu vous demande de pardonner au pécheur repentant. Mais si le pécheur en question n'est pas repentant du tout et continue d'offenser le bon Dieu, bien sûr qu'il ne faut pas pardonner. Sinon, c'est de la faiblesse. C'est même plus que de la faiblesse. C'est une hypocrisie sans nom devant Dieu, devant notre Seigneur Jésus-Christ. Attention à ça. Alors, l'homme, avec la grâce du bon Dieu, peut pardonner à celui qui l'a offensé, encore une fois, du moment que la personne qui nous offense habituellement a changé de vie et arrête de nous offenser. Reprenez l'exemple du petit garçon qui continue de voler 1 euro tous les jours dans le portefeuille de sa mère. Il ne peut pas être pardonné par sa mère tant qu'il n'arrête pas de voler, c'est évident. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si les pères parlent même d'oubli, rien n'est plus glorieux que d'oublier une offense. Ça, c'est une grâce tout à fait particulière du bon Dieu, que le bon Dieu ne donne pas à tout le monde. On peut pardonner, mais c'est pratiquement impossible d'oublier. Je n'ai pratiquement jamais vu quelqu'un qui oublie une grosse offense qui lui a été faite. Il peut pardonner, même pardonner du fond du cœur. Je pardonne à cet individu qui m'a gravement offensé. Je viens lui reparler de nouveau, être ami de nouveau avec lui. Je lui pardonne cette offense. Mais pour oublier l'offense grave qu'il nous a fait subir, il faut vraiment des grâces toutes particulières du bon Dieu. Et je ne sais pas si beaucoup de gens sont capables de ça. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'est pas capable, vraisemblablement un homme n'est pas capable d'oublier une offense grave qui lui a été faite sans une grâce toute particulière du bon Dieu. Donc reprenez donc celui qui vous a offensé entre vous et lui, en ne vous appliquant qu'à le corriger, en ménageant sa faute, sa honte plutôt, car il pourrait arriver que sous l'impression de ce sentiment, il entreprit de justifier la faute qu'il a commise, et ainsi, en voulant le corriger, vous le rendriez encore plus coupable. Il faut donc reprendre publiquement les fautes publiques et en secret les fautes secrètes. C'est un principe de théologie morale qui est très important. Une faute publique doit être prise, doit être rattrapée publiquement. Une faute secrète doit être gardée, rattrapée secrètement. Si vous demandez à quelqu'un qui a fait une faute secrète de rattraper la faute secrète publiquement, vous transformez un péché privé en péché public. Et ça, vous n'avez pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de faire ça. Attention, c'est grave. Parce que vous n'avez pas le droit de détruire la réputation de quelqu'un. Je dirais même une réputation à laquelle il n'est pas droit. On n'a pas le droit de détruire la réputation des gens, sauf dans des cas très particuliers. Par exemple, imaginez quelqu'un qui, pour une élection, un maire de village qui cherche à se représenter, puis vous savez que ce maire de village c'est un orgueilleux, un homme qui ne sait pas gérer les biens du village, et qui est un voleur et un mécréant, vous le savez, vous avez toutes les preuves. Bon, est-ce que vous avez le droit de prévenir les administrés? Attention, ce maire que vous voulez, cette personne que vous voulez élire comme maire, c'est un mécréant. Voilà les preuves. Oui, ça vous avez le droit. Mais on n'a pas le droit de dévoiler des fautes privées, les rendre publiques, parce que à ce moment-là, on tombe dans ce qu'on appelle un péché de médisance. Le péché de médisance, c'est ça. C'est dire du mal du prochain, un mal qui est vrai, il a effectivement fait cela, mais que vous n'avez pas le droit de dire. Oui. Donc attention, si vous rendez public une faute privée, ce qu'on appelle aussi un péché de scandale. Là aussi, un péché de scandale. Attention à ça. Donc on n'a pas le droit, dans la vie de tous les jours, si vous voulez, de mettre sur la place publique des choses qui sont privées. Parfois des catastrophes qui ont été faites. J'ai connu des gens qui se sont permis de dévoiler des péchés réels du prochain, les péchés privés, en mettant sur Internet, sur les réseaux sociaux, les choses mauvaises qu'avait fait telle personne. Sous prétexte que c'était vrai. Et quand on met ces médisances sur le prochain, sur un réseau social ou sur Internet, mais en quelques secondes, ça fait tour de la planète une dizaine de fois, hein. Il y a parfois des milliers de personnes qui peuvent être mises au courant de choses qu'elles n'auraient jamais dû savoir. C'est pas parce que quelqu'un a fait une chose une chose mauvaise, une chose pécamineuse, que vous avez le droit pour autant d'aller dévoiler cette chose pécamineuse, surtout si elle est privée, à tout votre réseau d'amis, tout votre réseau de gens que vous connaissez. Et si vous l'avez fait, vous avez un devoir grave, sous peine de péché grave, de rattraper, de réparer l'offense, ce qui n'est pas facile du tout. Parce que ce que vous avez dit est vrai, bon, ce que vous avez dit est faux, bon, c'est une calomnie, c'est relativement facile à rattraper, il suffit à ce moment-là de remettre sur les réseaux sociaux un rectificatif clair et net pour bien dire, voilà, j'ai dit telle chose sur telle personne, mais c'était faux, je vous demande pardon, les renseignements que j'avais étaient faux, et j'ai calomnié gravement cette personne, je lui demande pardon, je demande pardon à tout le monde et à Dieu lui-même. Bon. Mais si ce que vous avez dit est faux, c'est beaucoup plus difficile à rattraper. Vous avez détruit la réputation de la personne, vous avez scandalisé des tas de gens en dévoilant, par exemple, tout votre carnet d'adresse, tel méfait qui a été pratiqué par votre prochain. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est un scandale considérable que vous avez commis. Qu'on ne vienne pas me dire ce que j'entends tout le temps. Ah, mais la personne qui a commis le scandale, c'est la personne qui a péché. La première personne qui a péché, qui est donc responsable du scandale qui est fait par le fait que j'ai envoyé à toutes les gens de ma liste d'adresses tous les renseignements sur ce péché privé qui avait été fait par mon voisin. Attention, le péché de scandale, c'est vous qui l'avez donné, c'est pas le voisin. Le voisin, il a commis un péché grave. Bon, c'est sûr, il va falloir qu'il rende compte devant le bon Dieu. Mais le péché grave qu'il a commis, il l'a commis en privé. Par contre, vous, en dévoilant, sans raison proportionnée, ce péché privé, et en le mettant sur Internet pour que des milliers de personnes le connaissent, vous transformez un péché privé en péché public, et donc vous scandalisez les gens, vous poussez les gens au péché de mépris, au péché de dénigrement de la personne qui a péché au début. Faire attention à ça, ça c'est le danger d'Internet. Pour ça, j'en arrive maintenant, à chaque fois que je prêche les retraites, je conseille fortement, surtout aux jeunes, de quitter les réseaux sociaux. De ne plus se mettre sur les réseaux sociaux, de ne plus laisser traîner sur les réseaux sociaux des tas de choses. Je ne suis pas sur un réseau social, je reçois régulièrement des demandes ce que je rentre dans un réseau social quelconque, j'ai toujours refusé. Je refuse net de rentrer dans un réseau social. Parce que je sais, parce qu'on m'a dit, sur les murs des réseaux sociaux, ils mettent n'importe quoi, les gens parlent de n'importe quoi, mettent des photos qui devraient rester dans l'intimité de la famille, qui ne devraient pas sortir à l'extérieur comme ça. Alors, d'autres conseils des pères, en bas de la page 21. Donc après avoir dit, il faut donc reprendre publiquement les fautes publiques et en secret les fautes secrètes, voilà ce que disent les pères, de même que ceux qui n'appliquent pas ce passage à toute espèce de péché favorisent la négligence et l'invitent pour ainsi dire au péché, ainsi celui qui enseigne que le fidèle qui n'est coupable que de fautes légères et vénielles doit être regardé comme un païen publicain après avoir subi la réprimande devant témoins, devant l'église, me paraît introduire une doctrine par trop sévère. Donc il faut garder un équilibre. Il faut tempérer la justice par la miséricorde et tempérer la miséricorde par la justice. Bien qu'il faille corriger parfois les incroyants, le Christ ici ne parle que de ceux qui lui appartiennent et qui sont sujets à son Église. Car les fidèles ne peuvent être punis d'excommunication par l'Église en tant qu'ils ne lui appartiennent pas. Donc, par exemple, les non-catholiques ne sont pas tenus par les règles canoniques, par exemple, qui gèrent, qui régissent le mariage chrétien. Donc, un païen qui est marié civilement devant monsieur le maire avec l'intention de garder l'unité, l'indissolubilité et d'accepter les enfants que Dieu lui enverra, même s'il croit pas à grand-chose, eh bien, à partir du moment où il est païen, il n'est pas baptisé, il n'est pas tenu par l'obligation de se marier devant monsieur le curé, bien sûr que non. Et donc attention, donc il peut y avoir des mariages purement civils devant monsieur le maire par des gens qui ne sont pas baptisés, qui peuvent être valides. Faire très attention quand on a des conversions, et de ne pas systématiquement dire, bon, vous n'étiez pas baptisé, donc vos mariages antécédents, vos mariages antérieurs sont invalides. Attention, dans bien des cas, le premier est valide. Ainsi donc, pour cette correction qui par elle-même est quelque chose de Dieu, puisse être efficace et porter du fruit, deux choses principales sont demandées, la prudence et la charité. La prudence ou la discrétion. Prudence et discrétion, pour les pères, c'est la même chose. Alors, passons à la page 22. Donc, les pères vont expliquer ces deux conditions pour effectuer une correction fraternelle. Donc, la charité, d'une part, et la prudence ou la discrétion, d'autre part. Page 22. Donc, la charité, pour que le pécheur sente que la correction ne provient pas de la haine ou de l'orgueil, mais de l'amour et de la compassion. La prudence, qui doit être faite avec modestie, gentillesse, et en tenant compte de toutes les circonstances, de temps, de lieu et de manière, afin que celui qui a péché la reçoive avec gratitude et puisse se corriger selon les paroles de l'apôtre. Instruisez dans un esprit de douceur, et saint Léon rajoute qu'il y ait dans celui qui corrige de la bienveillance plutôt que de la sévérité, que ce soit plus une exhortation qu'un reproche provenant davantage de l'amour que de l'autorité. Oui, il faut tempérer encore ces deux choses, hein, la charité qui regarde la miséricorde et la prudence qui va regarder la justice, dans bien des cas. Hein. Donc parfois, il y a des remarques qu'il faut s'abstenir de faire aux pécheurs parce que ce n'est pas le moment. Il faut attendre que les circonstances soient favorables. Vous voyez que votre enfant, vous avez une réflexion à lui faire, mais il est trop énervé, il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il faut attendre. Attendez qu'il soit dans la meilleure condition pour lui parler. C'est très important aussi dans les relations entre époux. Parfois, des choses qu'un époux doit dire à son épouse, ou parfois l'inverse. Et puis, ce n'est pas le moment, parce que l'époux, là, il a eu un problème avec son patron, il revient, il est à cran, ce n'est pas le moment de lui donner un cours de métaphysique. Attendez un peu qu'il se calme. D'accord ? Il y a dans la Sainte Bible, un passage que j'aime beaucoup, qui explique un peu ça, c'est le dernier verset du psaume 146. À la fin, ce psaume dit « Bene placitum est domino super timentes eum et ineis qui sperant super misericordia eius ». Ça veut dire « Le Seigneur met son plaisir, se complaît en ceux qui le craignent, ça c'est la justice, et en ceux qui espèrent en sa miséricorde. » Et c'est une belle phrase du prophète David, donc, qui explique bien l'équilibre qu'il faut mettre entre les deux. Le Seigneur met son plaisir en ceux qui le craignent, par la vertu de justice, et en ceux qui espèrent en sa miséricorde. Hein? Donc les deux choses sont nécessaires. Alors, avançons dans ce chapitre 18 de saint Matthieu, à la page 22. Alors là, il y a un passage qui, en fait, que j'ai mis avant le verset 18, il vaudrait mieux le mettre après, parce que ça regarde plus le verset 18, les versets 18, 19 et 20. Donc voilà ces versets, 18, 19 et 20, saint Matthieu, chapitre 18. « En vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. » Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre quelque chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est la suite de ce pouvoir d'excommunication de l'Église. Si le pécheur n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen publicain. Ça, l'excommunication. Et donc, l'Église a l'autorité de lier sur la terre, et ce qui sera lié sur la terre sera aussi lié dans le ciel, de même que cette Église a le pouvoir de délier sur la terre ce qui sera aussi délié sur le ciel, au ciel. C'est le pouvoir des clés, en quelque sorte. Alors attention, n'importe qui n'a pas ce pouvoir dans l'Église catholique. Ont ce pouvoir le pape, bien sûr, les évêques, les cardinaux, les évêques, et les prêtres de façon limitée. Pour ceux dont il s'occupe sur le plan spirituel. Donc le prêtre a un pouvoir de délier au confessionnal. C'est évident que s'il confesse une personne qui n'a pas de contrition de son péché grave, si le prêtre se rend compte que cette personne qui se confesse, par exemple, d'un adultère, n'a pas la volonté délibérée de ne pas retomber dans l'adultère, n'a pas la volonté délibérée de couper complètement avec cette maîtresse qu'il a, eh bien, il ne peut pas recevoir l'absolution. Et donc, le prêtre est tenu, est obligé dans ces cas-là de lier le péché. Il reste lié à la personne en question parce que la personne n'a pas de contrition. Et s'il meurt dans cet état, eh bien, Dieu suivra le mandement du prêtre et ce péché qui est lié à cette personne ici-bas sur la terre sera aussi lié au ciel. Au contraire, lorsque le prêtre pardonne les péchés avec la formule d'absolution à quelqu'un qui regrette ses péchés, qui a la contrition, l'accusation, la réparation, hein, qui lui dit « Je t'absous de tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », le péché est délié, il est sorti de cette âme qui se retrouve libérée du péché, qui retrouve l'état de grâce, et ceci est valable non pas simplement au ciel, sur la terre, mais aussi au ciel. Et s'il y a une note que j'ai trouvée, je ne sais plus d'où vient cette note. Je ne pense pas qu'elle vienne d'un père, mais elle est très intéressante. Je ne sais plus où j'ai pris cette note. J'ai trouvé quelque part, elle n'est pas de moi, mais elle est vraie. Le pape, page 22, n'a aucun supérieur sur la terre. Pas même l'Église, ni un concile général. Donc le conciliarisme est une hérésie. On ne peut pas dire qu'un concile soit au-dessus du pape. Il est plus grand dans l'Église qu'un roi dans son royaume. Car un roi reçoit son pouvoir de l'État, alors que le pape le reçoit non pas de l'Église, mais directement du Christ. Ainsi, sous aucune circonstance, il ne pourrait être déposé par l'Église, mais on pourrait simplement déclarer qu'il est déchu de son pontificat si par malheur, que Dieu ne le permette jamais, il venait à tomber dans une hérésie publique. Il cesserait alors ipso facto d'être pape et même un fidèle chrétien. C'est l'enseignement de l'Église. L'Église enseigne qu'en fait, un pape ne peut pas tomber dans l'erreur doctrinale, sur la foi et les mœurs, quand il parle, surtout quand il parle ex cathedra, bien sûr. Et si un pape avait le malheur de tomber dans une hérésie publique, il cesserait ipso facto d'être pape, et même d'être un fidèle chrétien. Pour ça qu'il est très important de bien connaître la doctrine de l'Église concernant le rôle du pape. Le pape est vraiment le successeur de Saint-Pierre, le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, le vicaire de Dieu sur la terre, et qui a pour rôle de garder le dépôt de la foi. C'est pour ça que le bon Dieu lui a donné le privilège de l'infaillibilité pontificale dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, et quand il parle comme pape tout seul, ce qu'on appelle le magistère pontifical, et dans le cas où il parle avec tous les évêques réunis à lui, qu'on appelle le magistère universel. Donc rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ces choses-là, que le pape est infaillible. Donc quand il parle ex cathedra sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église, dans son magistère ordinaire et extraordinaire, quand il parle seul, donc magistère pontifical ordinaire, magistère pontifical extraordinaire, et quand il parle en union avec tous les évêques unis à lui, soit dans son magistère ordinaire, soit dans son magistère extraordinaire, ce qu'on appelle le magistère universel, ordinaire et extraordinaire. Donc les choses soient claires. La formule était avant-courante, Roma locuta est, causa finita est. Rome a parlé, la cause est terminée. Oui. Je vous rappelle que les grands historiens de l'Église qui parlaient justement du rôle des papes avant la définition de l'infaillibilité pontificale par le pape Pie IX à la fin du concile Vatican I, qui a été interrompu par la guerre d'Italie, l'envahissement des états pontificaux par l'Italie, le gouvernement italien. Et donc attention à ça, hein, ne pas oublier toutes ces choses-là qui sont très importantes. Hein, l'infaillibilité pontificale est clairement établie par le pape Pie IX. Hein. Donc je reprends mon idée, c'est que les écrivains d'avant Pie IX, donc avant 1870, qui ont écrit sur le pape, quand il parle du pape, il faut voir par exemple dans Dara, je vous l'ai déjà cité, dans l'histoire de l'église de Dara, je suppose que Dara Orbacher, ce sont les deux meilleurs historiens français, hein, l'histoire de l'église de Dara, l'histoire de l'église de Orbacher, eh bien, en tout cas c'est Dara, Daras dit expressément, chaque fois qu'il parle du pape et qu'il parle du siège de Rome, c'est le siège infaillible de Pierre. Et pourtant, il écrit autour des années 1860, donc avant la déclaration du pape Pie IX sur l'infaillibilité pontificale. Le siège infaillible de Pierre. Donc il ne faut pas croire du tout, comme l'enseigne la Fraternité Saint-Pilice, que le pape n'est infaillible qu'une fois tous les 150 ans, quand il y a un dogme de foi qui est établi. Beaucoup de gens, moi j'ai entendu les prêtres de la fraternité dire ça, le dernier texte infaillible d'un pape, c'est uniquement quand le pape, le dernier texte infaillible d'un pape, c'est Pie XII, avec le dogme de l'Assomption entre la Sainte Vierge Marie en 1950. Et donc en dehors de ces cas extrêmement rares où le pape use ce magistère extraordinaire, pour un texte ex cathedra, eh bien, le pape peut se tromper, donc on peut faire ce qu'on veut. Ben non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire. Attention. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église donc sur ce sujet. Donc, c'est à la page 22. Ce n'est pas seulement l'efficacité de l'excommunication, mais encore la puissance de toute prière des fidèles priant de concert dans l'unité de l'Église que notre Seigneur confirme en ajoutant « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'unissent ensemble sur la terre, soit pour recevoir un pénitent, soit pour rejeter un orgueilleux, ou pour toute autre chose qu'ils demandent et qui ne soit pas contraire à l'unité de l'Église, ce qu'ils demandent leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Il est lui-même la paix et la charité. Il établira son trône et son habitation dans les volontés droites et pacifiques. Donc, attention à ce texte. N'oublions pas que lorsque notre Seigneur Jésus dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux » et que quelque chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Attention, il ne faut pas prendre non plus le bon Dieu comme une vache à lait qu'on peut traire à longueur de journée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Le bon Dieu, si on demande du n'importe quoi, si on demande des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, c'est ce que vont expliquer les pères maintenant, si on demande au bon Dieu des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, le bon Dieu peut donner une réponse qui est négative. Une réponse négative, n'oublions pas que c'est une réponse. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Hein, j'ai fait une neuvaine de prière pour obtenir telle chose et mon Dieu, il ne m'a pas répondu. Ben oui, il a répondu en disant non. Ben en disant non, c'est une réponse. Et donc voilà ce que disent les pères. Comment donc, ils se posent la question, comment donc se fait-il que des personnes parfaitement unies entre elles n'obtiennent pas ce qu'elles demandent? Alors voilà les réponses données par les pères. Il faut bien méditer là-dessus. C'est un passage important. Donc à la page 22 du Polycopier. Premièrement, parce qu'elle demande des choses qui ne leur est pas avantageux d'obtenir. Rappelez-vous, c'est Paul qui demande d'être libéré d'un aiguillon qu'il avait dans la chair, et qu'est-ce que vous lui répondez, notre Seigneur? Pourtant, c'était le grand saint Paul, il l'a demandé plusieurs fois à mon Dieu, trois fois au moins. Notre Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Et voilà. Donc, il n'était pas avantageux d'obtenir que Dieu enlève cet aiguillon dans la chair. Et si le bon Dieu avait enlevé l'aiguillon dans la chair qui faisait souffrir beaucoup moralement saint Paul, ben peut-être que saint Paul ne serait pas devenu un si grand saint. Deuxièmement, des personnes peuvent ne pas obtenir ce qu'elles demandent par la prière parce qu'elles sont convenablement, elles sont personnellement indignes d'être exaucées, qu'elles n'apportent pas à la prière les dispositions convenables, parce qu'elles vivent dans le péché jusqu'au cou, par exemple. Il est évident que le bon Dieu n'est pas obligé d'écouter les prières de gros pécheurs qui prient de façon un peu hypocrite. Aussi notre Seigneur prend-il soin de dire si deux d'entre vous, c'est-à-dire de ceux dont la vie est conforme à l'Évangile. C'est évident que quand on vit en état de grâce, notre prière est beaucoup plus efficace. Bon, certes, un pécheur peut prier, attention. Souvent, on entend dire des gens, monsieur l'abbé, j'ai commis un péché mortel, je suis en péché mortel depuis 15 jours, donc j'ai arrêté de prier parce que je ne suis plus digne de prier. Mais c'est complètement idiot de dire ça. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il est venu justement pour les pécheurs. Et c'est précisément quand on est tombé dans le péché qu'il faut encore plus prier. On a besoin de plus prier pour supplier le bon Dieu de nous donner la grâce d'un acte de contrition parfaite ou de la contrition imparfaite jointe à la confession. Et donc, la pire des choses que vous puissiez faire quand vous avez commis le malheur, vous avez le malheur d'avoir commis un péché mortel, c'est d'arrêter de prier, justement. Ces personnes qui prient n'obtiennent pas forcément ce qu'elles demandent parce qu'elles prient contre ceux qui les ont offensés. Il faut prier pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il faut prier pour la conversion de ceux qui nous ont offensés. Mais pas prier contre ceux qui nous ont offensés. Quatrièmement, afin qu'elles implorent la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Enfin, parce qu'elles implorent la miséricorde divine pour des pécheurs sans repentir. Il est évident que si je prie pour un pécheur qui garde une occasion prochaine volontaire de péché mortel, eh bien, il ne risque pas de recevoir le pardon de ses péchés. Enfin, si nous ne sommes parfaitement unis entre nous ici-bas, ni par la foi, ni par la conformité de la vie, nous n'obtiendrons rien. Donc la nécessité de la charité. Rappelez-vous l'hymne de la charité de saint Paul, si je ne sais pas la charité, je ne suis rien. Je suis comme une cymbale qui vibre. Une cloche qui sonne, le son s'estompe très vite. Même si je donne ma vie pour sauver les pauvres, si je nourris tous les pauvres de la planète, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour du bon Dieu en moi, si je ne vis pas dans l'état de grâce, je ne suis rien. Car de même que la musique ne peut charmer les oreilles, disent les pères, s'il y a un défaut d'accord dans les voix, de même, si l'harmonie ne règne dans l'Église, Dieu ne peut ni s'y complaire, ni écouter les voix de ses enfants. Donc, les théologiens, avec raison, prouvent à partir de ce passage tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Et il prouve à partir de ce passage le pouvoir d'excommunication avec le sacrement de pénitence comme moyen de jugement et d'absolution. C'est ça qu'une absolution, quand elle est relevée par l'Église, elle est relevée en général au confessionnal. Et là, il y a un exemple historique du temps de Saint Ambroise, évêque de Milan, qui est très important. C'est l'empereur Théodose, donc qui avait été provoqué le massacre de plusieurs milliers de soldats à Thessalonique sur un coup de colère. Il avait essayé de se rattraper en renvoyant il avait d'abord donné l'ordre de massacrer tous ceux qui s'étaient révoltés dans son armée. Ensuite, il a compris que c'était un coup de colère. Il a renvoyé un deuxième messager pour annuler le premier ordre. Le problème, c'est que le deuxième messager est arrivé trop tard, que l'ordre avait déjà été rempli et tous les révoltés avaient coupé le cou. Et donc, saint Ambroise l'avait su, et lorsque l'empereur Théodose est revenu à Milan, après le massacre de Thessalonique, saint Ambroise, à l'époque c'était des vrais évêques, hein, saint Ambroise l'a tenu à la porte, et lui a maintenu la porte fermée, et lui a interdit d'entrer dans l'église. Et saint Ambroise, l'empereur Théodose gémissait en disant « Les esclaves et les mendiants ont accès au temple de Dieu, mais j'en suis moi qui suis empereur, je suis mis dehors. Mais je sais que le Seigneur a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. » Et l'empereur Théodose s'est humilié comme un pénitent. Donc il a fait la pénitence imposée par saint Ambroise, qui était en partie une pénitence publique d'ailleurs, pour obtenir l'absolution qu'il finit par obtenir, et il remplit donc la pénitence qui lui avait été imposée. Voilà ce que c'était des grands évêques. Saint Ambroise est un des plus grands évêques de l'histoire de la chrétienté, c'est lui qui a converti également saint Augustin. Dans le concile de Bâle note, en se basant sur saint Thomas d'Aquin, qu'il y a trois manières de lier ou de délier reconnues par les catholiques. La première par autorité, qui n'appartient qu'à Dieu. Dieu peut, par exemple, mettre dans l'âme d'un pécheur la grâce d'un acte de contrition parfaite. Et ce péché sera pardonné. Rappelez-vous, ce suicidé qui a sauté du pont de la Guillotière à Lyon avec une grosse pierre autour de son cou, et qui est mort noyé, suicidé. Le saint curé d'Ars a révélé à son épouse, qui était en pleurs dans la chapelle d'Ars, lui dit « Ne pleurez pas, car entre le pont et l'eau, la très sainte Vierge Marie a obtenu pour votre mari la grâce d'un acte de contrition parfaite. » Il faut aller vite hein, pour ça. Et bien, un acte de contrition parfaite, c'est une manière de délier par autorité qui n'appartient qu'à Dieu seul. La deuxième, par excellence, qui est particulière au Christ. Au Christ en tant que souverain prêtre. En tant qu'homme, il est homme, mais il est homme lié à la divinité, puisqu'il est à la fois homme et Dieu. Enfin, la troisième manière de lier ou délier, qui n'est accordée par le Christ qu'au prêtre. Donc c'est pour ça que seul le prêtre peut pardonner les péchés au confessionnal. Bon, un laïc peut aider une âme qui se confie à lui, d'augmenter en elle, la confiance en Dieu, le regret de ses péchés. Vous pouvez pousser quelqu'un à regretter ses péchés, le préparer en quelque sorte, même provoquer en lui, avec la grâce du bon Dieu, un désir de contrition parfaite, et même l'obtenir complètement. Mais en soi, seul le prêtre peut pardonner les péchés. Il y a eu des cas au Moyen-Âge de chevaliers mourants qui faisaient leur confession générale à un autre chevalier qui était à côté d'eux, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de prêtre à leur disposition sur place, et le chevalier à côté disait « Bon, moi je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Bon, c'est pas un sacrement, attention. C'est en soi invalide dans le sens que seul le prêtre a le pouvoir de lier et de délier. Pas oublier cela. Alors nous avançons dans ce chapitre 18, nous sommes maintenant à la page 23, donc je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle, je ne veux pas trop pousser en temps pour pas trop vous fatiguer. Donc nous reprendrons, si Dieu veut, le prochain cours à la page 23. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph et Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.